continuer ce matin dans cette même série, dans cette même vague qu'on a débuté la semaine dernière, qui est dans le fond, dans quelle saison êtes-vous? Et je me dis, ce matin en écoutant la louange, je me dis peut-être qu'en tant qu'Église, hein, lorsque je pense encore une fois à passons de l'autre bord, peut-être sommes-nous à une saison où il est le temps de voir la grandeur de Dieu. Peut-être sommes-nous rendus à une saison où, en tant qu'Église, et c'est-à-dire, si c'est en tant qu'Église, c'est dans nos vies individuelles, est-il temps pour nous de réaliser la grandeur de Dieu? Parce que de réaliser la grandeur de Dieu va nous amener à voir la grandeur de Dieu. Et même de pas minimiser la grandeur de Dieu. Parce que des fois, on est dans une certaine saison, on sent ou on espère que la prochaine saison arrive, mais pour X raisons, dans nos yeux, dans nos émotions, dans nos sentiments, dans ce qu'on voit à travers les circonstances, on dirait que tout sauf la prochaine saison arrive. Et aujourd'hui, si on regarde les derniers jours, juste au niveau de la température, on sait que le printemps s'en vient, mais écoute, oh! On le sait, mais on le sent pas vraiment. Okay? Et il y a quelque chose qui s'en vient pour cette assemblée. Il y a quelque chose qui s'en vient dans votre vie. Et la dernière chose à faire, c'est quoi? C'est d'enlever nos yeux sur la promesse, d'enlever nos yeux sur ce qui s'en vient et de fixer nos regards sur ce que l'on ressent. Amen. Dans quelle saison êtes-vous? Vous êtes dans une saison, mes amis. Où c'est l'heure, où c'est le temps de voir, pas de problème, la grandeur de Dieu. Amen. La grandeur de Dieu se manifester dans nos vies. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que la grandeur de Dieu se manifeste et on la voit dans nos vies souvent, hein, quand de nos propres yeux, on voit rien. Quand de nos propres yeux, on semble avoir abandonné. On semble avoir perdu espoir, qu'on continue à prêcher, on continue à écouter la parole, on continue à méditer la parole, on continue à prier, on continue à déclarer la parole, on continue à faire le mieux qu'on peut de tout ce qu'on a toujours appris à faire, mais pourtant, il semble que le printemps ne vient pas. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que cette prochaine saison, un jour, viendra? Mais la grandeur de Dieu, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde au niveau des Écritures, la parole, ou plutôt la grandeur de Dieu, lorsqu'on regarde le peuple d'Israël dans le désert, comment est-ce que la grandeur de Dieu s'est manifestée? La grandeur de Dieu s'est manifestée alors que tout semblait perdu, alors que tout semblait impossible, alors que la mort était là à leur porte. Alors qu'ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque de suivre quelqu'un, amen, qui ne savait pas nécessairement plus que les autres où est-ce qu'il s'en allait. De suivre quelqu'un qui a tout simplement obéi à l'appel de Dieu. Ils ont pris le risque de suivre quelqu'un et de sortir. Dieu les a miraculeusement délivrés de leurs ennemis, sortis du pays d'Égypte pour arriver à la porte finalement et se dire, on a tout fait ce chemin-là pour rien. Voilà, la mer est là, devant nous, bravo, c'est le fun, on est sorti d'Égypte. Mais pourquoi? Mourir ici ou mourir en Égypte? Écoute, je me serais économisé tout cet effort. Mais c'est là que la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la magnificence de Dieu s'est justement manifestée. Parce que des fois, j'entends des gens dire, souvent, j'entends des gens dire, « Ouf, là, je suis dans le désert. » C'est pas une si mauvaise chose que ça, être dans le désert. Hein? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans le désert. Mais une des choses principales qui se passent dans le désert, Dieu veut savoir, est-ce que je suis toujours Dieu au-dessus de tout. Dieu veut savoir, est-ce que tu crois que je peux te nourrir quand même? Est-ce que tu crois que je peux t'abreuver quand même? Est-ce que tu crois que je peux faire en sorte que tu marches dans le désert et que tes vêtements ne s'usent point? Est-ce que tu crois que dans le désert, là où rien ne pousse, je peux prendre soin de toi? Est-ce que tu crois qu'alors que tes ennemis te poursuivent et que tu n'as aucune arme dans tes mains, je peux te délivrer? Parce que Jésus est allé dans le désert. Mais Jésus est sorti comment du désert? Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si Dieu reste Dieu dans votre désert, vous sortirez du désert rempli de la puissance du Saint-Esprit. Si malgré toutes les tentations qu'il y a dans le désert, parce que la Bible nous dit, on le voit, Jésus a été tenté en toutes choses comme nous-mêmes avons été tentés, mais Jésus a fait quoi? Jésus a résisté. Oh oui, mais c'est Jésus. Oh, mais écoute, c'est un homme. Si on continue toujours à voir Jésus et sa marche sur terre comme simplement Dieu, on passe à côté. Et si on voit Jésus comme un homme rempli et oint du Saint-Esprit, si on voit Jésus comme un homme qui a marché, qui a frayé le chemin pour nous, qui nous a donné l'exemple, alors on se dit, est-ce que je suis obligé de mourir dans le désert? Est-ce que je suis obligé de m'inquiéter pour la nourriture dans le désert? Est-ce que je suis obligé de m'inquiéter sur ce que je vais me vêtir dans le désert? Est-ce que je suis obligé de m'inquiéter sur comment le Seigneur va prendre soin de moi dans le désert? Et on est dans le désert, et on lit la parole, on regarde la parole, et c'est facile de juger. C'est facile de juger quand tu regardes Exode, quand tu lis des livres comme Juges, où ce que tu vois que le peuple sans cesse vient à Dieu, oh, s'éloigne de Dieu, vient à Dieu, s'éloigne de Dieu. Et on se dit, mais quand est-ce qu'ils vont comprendre? Mais je nous dis ce matin, quand est-ce que nous allons comprendre? Quand est-ce que nous allons comprendre que dans nos moments les plus hauts, comme dans nos moments nos plus bas, Dieu est toujours assis sur son trône? Un trône qui est inébranlable. Un Dieu qui est toujours le même. Amen. Il n'y a aucune situation que vous amenez devant Dieu et qui dit, oh, je ne l'attendais pas celle-là. Oh, laisse-moi appeler Jésus, on va voir s'il nous reste quelque chose dans notre sac pour toi. Et Dieu dit, hey, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Un bâton? Amène ce bâton. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? 5 pains, 2 poissons? Amène ce que tu as. Va avec la force que tu as. Et la force que nous avons est beaucoup plus qu'une force humaine, mes amis. La force que nous avons, c'est la force de l'Éternel lui-même. Comme David a dit à Goliath, tu viens devant moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Okay. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Dans quelle saison êtes-vous? Amen. Vers quoi est-ce que vous allez? Et on a vu la semaine dernière que les périodes de transition sont nécessaires, mais les périodes de transition sont souvent les périodes les plus difficiles. Les périodes où il y a le pire, je dirais, pourcentage de mauvaises décisions sont prises dans ces périodes de transition où on sait juste plus quoi faire. Est-ce que j'attends? Est-ce que je continue? Est-ce que j'attaque? Qu'est-ce que je fais? Hein, tu sais plus, est-ce que je mets mon manteau d'hiver, est-ce que je mets mon manteau de printemps, est-ce que je garde mes bottes d'hiver, est-ce que je mets mes bottes de printemps, est-ce que je mets les salopettes à mes enfants, non, est-ce que il n'y a pas de neige, mais il fait moins 30, etc. Ah. les périodes de transition, souvent j'entends parler du désert comme quelque chose de négatif. C'est l'issue du désert qui va décider pour vous si c'était positif ou négatif. Okay? Parce que dans le désert, Dieu s'est révélé. Dans le désert, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel qui guérit. Dans le désert, Dieu s'est révélé comme étant l'Éternel qui pourvoit. Amen? Comme l'Éternel qui délivre. Dieu s'est révélé à son peuple dans le désert. Il a dit, arrêtez de vous attendre à quoi que ce soit, regardez à moi. Et je crois que nous sommes dans une saison où nous avons besoin de lever les yeux et de fixer nos regards sur Dieu. Et ça, peu importe dans la saison dans laquelle vous êtes, peu importe que ce soit l'été, printemps, hiver, que peu importe que ce soit la préparation, peu importe que vous soyez dans votre période de compétition, peu importe la saison dans laquelle vous êtes, on a besoin de fixer le regard sur Christ. Une saison où la grandeur de Dieu doit se manifester. Vous savez, pour Dieu, premièrement, Dieu ne panique pas. Okay? Mais non seulement il ne panique pas, mais pour lui, là, il se disait, attendez un peu, vous allez voir. Dans le sens où, pour lui, là, il se disait probablement, écoute, lorsque je vais séparer la mer en deux, tout le monde verra que je suis Dieu. Hein? Tout le monde verra que ce peuple m'appartient. Et tout le monde verra toutes les bénédictions qui appartiennent à ceux qui m'appartiennent. C'est le but de la grandeur de Dieu. C'est le but de Dieu. Encore une fois, Dieu a toujours voulu se mettre un peuple à part, qui lui appartient. Qui lui appartient pourquoi? Qui lui appartient pour dire tant pis pour les autres? Non. Qui lui appartient justement pour que les autres peuples puissent voir à travers ce peuple. Comme Rahab, amen, a eu la révélation. Elle a dit, écoute, on a entendu dire ce que Dieu a fait. On a entendu dire comment Dieu vous a délivré d'Égypte. On a entendu dire comment il a enlevé vos ennemis devant vous. Et on sait que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le vrai Dieu. Amen. C'est ce genre de témoignage que nos vies doivent donner à Dieu. Amen. Je vais inviter Claude, Madame Bergeron, si vous voulez, elle a demandé de donner un petit bref témoignage d'une situation qui se passait dernièrement, justement dans leur vie, une épreuve avec leur fille, et je vais vous laisser partager ça. Je pense que ça va être...
Gloire à Dieu, c'est vraiment pour rendre gloire à Dieu ce matin que je me place devant vous. Nous avons trois enfants, deux garçons et une fille. Il y a 9 ans, notre fille nous a dit qu'elle ne voulait plus rien savoir de nous. Les raisons, c'était qu'on était des parents trop répressifs. Mais Dieu, pendant 9 ans, nous, on a prié. On a demandé à Dieu qu'il agisse, qu'il se manifeste. Puis on a même demandé des prières. Daniel a demandé des prières dernièrement pour notre fille, parce qu'elle est opérée. Elle a eu beaucoup de difficultés dans son opération. Puis, on lui a offert de l'aide. Elle ne voulait rien savoir, puis tout ça. Mais Dieu a mis des choses, il a préparé les choses. Et elle nous a appelé la semaine dernière qu'elle était prête à ce qu'on garde ses 3 fils. Alléluia. Moi, je vois la gloire de Dieu là-dedans. Là. Je vois vraiment la gloire de Dieu. On a gardé nos 3 petits-fils. C'était une bénédiction. Ces 3 petits garçons, très jeune, ben 5 ans le plus jeune, puis 6 ans. Ils ont un an et demi de différence chacun. Mais c'était vraiment bénissant. On rend gloire à Dieu. C'est un temps béni. Je peux vous dire que Dieu est grand. Ce matin, quand je le sentais, quand je le chantais ce matin, je savais, moi, comment Dieu est grand. Maintenant, si vous l'avez à cœur, j'aimerais que vous priez pour nos trois enfants. Parce que nos trois enfants ont accepté le Seigneur. Nos trois enfants étaient remplis du Saint-Esprit. Et les trois enfants ont délaissé le Seigneur. Mais je sais que Dieu ne les ravira pas de sa main. Puis j'aimerais voir la gloire de Dieu cette année sur nos trois enfants. Que les enfants reviennent à Dieu. Et c'est cela ce matin que je voulais témoigner. Combien Amen. Dieu est grand. Amen. Amen.
Écoute, ça, c'est la vraie vie, là. Dans le sens de, la vraie vie, dans le sens que, c'est le genre d'épreuve qu'on passe. Et je passe le micro ici de ce matin à chaque personne et tout le monde va être capable de raconter quelque chose. Et raconter dans le sens de, hein, de témoigner, de partager, de, mais qu'est-ce qu'on fait après? Hein? On baisse les bras? On abandonne? On met Dieu de côté? Je lis un livre dernièrement, puis il donnait des statistiques. Il parlait justement du fait qu'on a besoin de voir Dieu dans l'Église. C'est-à-dire l'Église, pas seulement quand on se réunit ensemble, mais dans l'Église, les enfants de Dieu, les chrétiens. Et il parlait de statistiques où c'est difficile parce que dans notre époque, malheureusement, il n'y a presque aucune différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Il n'y a aucune différence dans les taux de, dans les pourcentages de violence conjugale. Très similaire. Divorce, très similaire. Consommation, drogue, alcool, peu importe. Les pourcentages étaient très similaires. Vol, viol, je ris, mais c'est tellement pas drôle. Les pourcentages très similaires. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que une des raisons, c'est qu'on peut-être on s'attend plus à la grandeur de Dieu. Peut-être que Dieu n'est plus aussi significatif dans nos vies. Pour combien de personnes est-ce que Dieu n'est pas suffisant pour lui sortir de la dette, pour sortir de telle situation, pour sortir de telle ou telle autre situation? Pour combien d'entre nous, dans combien de circonstances, dans combien d'occasions est-ce que Dieu est souvent le dernier recours lorsqu'on a appelé telle personne, lorsqu'on a essayé telle chose, lorsqu'on a cogné à telle ou telle porte, finalement, la seule chose qui nous reste, c'est « je me mets à genoux ». Puis des fois, tout de suite, quand on se relève, on continue, on va frapper à telle ou telle autre porte. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque la mer devant toi et les ennemis derrière? Lorsque tu es entouré de partout? Et c'est là c'est là où ça tranche. C'est là où, si on désire passer de l'autre bord, si on désire passer la prochaine saison dans nos vies, c'est là où ça tranche, ou comme on dit, c'est là où ça passe ou ça casse. Dans le sens où, jusqu'à quand tu vas endurer de voir tes ennemis venir vers toi sans bouger? Jusqu'à quand est-ce que tu vas endurer de voir la situation se détériorer sans bouger? Te lever. Et quand je dis sans te lever, ça veut dire quoi? C'est sans y aller puis essayer quelque chose de tes propres forces. Parce que des fois, justement, se reposer, c'est beaucoup plus difficile que d'agir. Mais le Seigneur nous demande de nous reposer comment? De nous reposer dans notre foi. De nous reposer dans notre espérance. De nous reposer en Lui. Et ce genre de repos, mes amis, c'est un repos qui est actif. C'est un repos qui est actif. Pourquoi? Parce que déjà, tu as besoin de te battre contre toutes les mauvaises pensées qui viennent vers toi. Amen. Tu as besoin de te battre contre toutes les circonstances, contre toutes les nouvelles, contre tout ce que les gens vont dire. Ah oui, mais écoute, j'ai entendu telle personne. Ah oui, mais écoute, fais ci. Ah oui, mais écoute, viens, abandonne. Écoute, tu as le droit, c'est pas plus grave que ça. Et ce qui arrive, c'est qu'on fait quoi? C'est qu'on fait des compromis. Pas capable d'attendre pour cet emploi que le Seigneur m'a promis. J'ai peur de manquer. Je vais chercher le premier emploi qui vient. Pas capable d'attendre pour ce mari ou cette femme que le Seigneur m'a promis. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher la première personne qui vient. Et après, je suis malheureux, malheureuse, et je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans telle situation? Après, je suis au travail, je dis, Seigneur, je ne suis pas bien dans mon travail. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Faut être patient. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu vois la mer s'ouvrir. OK? Est-ce que tu vas te retourner? Tu vas dire, OK, non, je me rends, on se rend, c'est bon. On retourne en Égypte, c'est bon. Ou tu vas attendre que la mer s'ouvre. Ah, quand j'étais dans le monde, je vivais pas toutes ces choses-là. Quand j'étais dans le monde, c'était beaucoup plus facile. Quand j'avais pas pris tel engagement, c'était beaucoup plus simple. Mais la Bible nous dit, hein, très clairement, de ne pas envier les méchants. Là. Okay? De ne pas envier les méchants, de ne pas envier ceux qui s'enrichissent et qui ont une vie croche. Et puis des fois, c'est comme, pourquoi moi je viens à l'église? Pourquoi moi je prie? Pourquoi moi je fais ci? Puis j'ai de la misère à faire ça, puis je vois eux autres qui croient même pas en Dieu, et là, ils s'enrichissent, et là, et après, Dieu pour nous, c'est pas plus que ça. T'es supposé d'avoir quelque chose que eux n'ont pas. Qui vaut plus que de l'or. Qui vaut plus que l'argent. Qui vaut plus que toutes les positions sociales que tu peux avoir. Qui vaut plus que tous les grades que tu peux accéder. Qui vaut plus que toutes les maisons que tu peux arriver à acheter. Qui vaut plus que n'importe quoi d'autre. Quelle saison sommes-nous? Parce que vous savez très bien comme moi que les Israélites sont restés dans le désert beaucoup trop longtemps. Beaucoup plus longtemps qu'il était prévu au départ. Okay? Et ce que la Bible nous dit, c'est que c'est leur propre incrédulité, leur propre convoitise, leur propre idolâtrie, leur murmure. C'est eux qui se sont gardés eux-mêmes dans le désert. Le désert n'est pas une mauvaise place, parce que tout ce que eux ont vu, c'est ce qu'il n'y avait pas. Mais ils ont oublié le fait que, aïe, il y avait de la nourriture qui pousse dans le désert. On est surnaturellement nourri. Il y a de l'eau qui sort d'un rocher. Et ah, oui, en passant, on vient tout juste de traverser la mer. Et en route vers notre prochaine saison, des fois on oublie la dernière saison. Des fois on oublie la dernière délivrance que le Seigneur nous a donnée. Des fois on oublie la dernière chose que le Seigneur a fait dans nos vies. Et on arrive dans cette nouvelle saison-là, c'est comme si tout était nouveau, comme si Dieu avait changé, comme si Dieu était resté en Égypte, et on se demande encore, où est-ce que tu es? Hey, le même Dieu qui était là, la dernière saison est encore là aujourd'hui. Il y a un shift là. Un changement, un passage qui doit être fait. Où le monde doit voir la grandeur de Dieu. Et c'est très, très, très inconfortable. OK? Je vous rassure, vous n'êtes pas confortable, c'est normal. C'est très inconfortable dans la chair. J'ose juste m'imaginer, encore une fois, cette image d'être devant la mer, d'avoir les ennemis devant toi. Tu te retournes et tu dis, ça y est, c'est fini. Aucune issue. Je peux vous assurer, c'est très inconfortable. Okay. Quand tu es envoyé et que tu es nourri surnaturellement par des corbeaux dans le désert, que tu es envoyé chez une veuve qui n'a plus rien à manger et que tu lui dis, « Hey, avant de manger, donne-moi donc à manger, à moi. » Ça doit être assez inconfortable. Et la femme te répond, « Ça y est, c'est bon, voilà, je te fais à manger, je te donne à manger, puis après, ben moi et mon fils, on va mourir, merci. » Ah non, non, mais écoute, je ne savais pas. Vas-y, mange, mange avant. Non, 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 non. Non. C'est la parole du Seigneur. Elle dit, fais-moi manger. Après, tu vas voir. Tu ne manqueras plus jamais de nourriture. Tu as ton fils et tu as la parole de Dieu. Mon fils qui va mourir, la parole de Dieu. Mon fils qui va mourir, la parole de Dieu. Mon fils qui va mourir, la parole de Dieu. Je vais perdre mon travail, et la parole de Dieu. Je vais mourir à cause de la maladie, la parole de Dieu. Je vais perdre mon couple, la parole de Dieu. Tout le monde va être contre moi, la parole de Dieu. Je m'en sortirai jamais, la parole de Dieu. Hello? Été, hiver, printemps, été, printemps. OK? Où est-ce que vous allez regarder? Où est-ce que vous allez regarder? Et j'ose croire, et c'est pas pour pointer le doigt à personne, parce que je m'inclus dans tout ça, là, que si on voit pas plus de la manifestation de la grandeur de Dieu dans nos vies, c'est que trop souvent, on n'est pas capable d'attendre que la mer s'ouvre. Et je l'avoue, je suis le premier, je saute dans ce bateau-là. Là. Trop souvent, on n'est pas prêt à attendre que la mer s'ouvre. Okay? Et le fait est qu'on vit dans un monde, dans une société surtout, qui va nous offrir à peu près toutes les autres alternatives dont nous avons besoin. C'est juste ça. OK? Il y a la parole de Dieu, il y a le naturel. Il y a la parole de Dieu, il y a ce que je peux contrôler. Il y a la parole de Dieu qui est incertaine pour ma chair, et il y a le concret que je peux toucher aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Ah, ça me rassure. Mais il y a la parole de Dieu qui dit, attends. Quoi, attends? Oui, mais Seigneur, tu vois pas ce qui... Attends. Patience. Imitez ceux qui parlent la foi et la persévérance. Et hérite des promesses. Et c'est là où on perd beaucoup de gens. La persévérance. C'est là où on voit des gens, doués, capables et tout ça, et tu vois un jour, ils sont plus là, ils viennent plus, ils tombent ou peu importe, puis tu te dis, comment ça? Persévérance. Hein? Et ce qui me désole souvent dans tout ça, c'est que le réflexe de beaucoup trop de gens, c'est de dire justement, mais Dieu, où es-tu? Quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi est-ce que Dieu me laisse faire ça? Hein? Et malheureusement, c'est pas la seule personne qui me l'a dit. Pourquoi est-ce que Dieu me sort tout simplement pas de là? Pourquoi est-ce qu'il me laisse faire ça? Et la même personne va dire, après, pourquoi est-ce que Dieu me laisse pas faire ce que je veux? OK? Écoute, En tant que parent, est-ce que vous avez déjà eu des enfants qui ont fait quelque chose que vous ne vouliez pas qu'ils fassent? À tous les jours. Quel mauvais papa tu fais? Désolé. Hein? Parce que, ah oui, on a un choix. On a une décision. Et je pense qu'en tant qu'Église, en général, en tant que chrétien, en général, il faut passer de l'autre bord de cette mentalité de victime. De tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pas de ma faute. J'ai entendu chuchoter un Amen. Qu'il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui est responsable de qu'est-ce que je suis pas capable de faire, de ce que je suis en train de vivre de mal. Et sinon, s'il y a personne, ben c'est Dieu. Dieu qui n'est pas vraiment Dieu, parce que s'il était vraiment Dieu, je n'aurais pas à vivre ça. Avec ce genre de mentalité, ce n'est pas surprenant qu'on ne voit pas la grandeur de Dieu. Avec ce genre de mentalité, ce n'est pas surprenant que les chiffres à l'intérieur de l'Église sont les mêmes qu'à l'extérieur de l'Église. Parce que, ah oui, c'est exactement la même mentalité qu'il y a à l'extérieur de l'Église. Dans quelle saison sommes-nous? Saison de maturité, je pense. Une saison où c'est le temps de maturer, de porter du fruit en notre saison, en notre temps. Une saison où c'est le temps de réaliser que justement, peu importe la saison dans laquelle je me trouve, Dieu est là, Dieu est le même et Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de moi, dans ma vie, dans mes circonstances. C'est comme les gens que je rencontre au gym, que tu leur donnes un programme de 5-6 mois et qu'après un mois, ils ne le suivent plus. Et une des raisons qu'ils vont te dire, c'est « mais je ne vois aucun résultat ». Mon ami, si ton programme est de 6 mois, il y a des chances que le 5e mois soit important. Et le 6e aussi. Mais après un mois ou deux, on ne voit pas de résultat et on abandonne. On dit « lis ta parole, médite ta parole, proclame ta parole, déclare ta parole » et on essaye une semaine, ça ne fonctionne pas. J'ai marché, j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai prié, ça ne marche pas. J'ai lu ma Bible, ça ne marche pas. OK. Mais déjà, est-ce que tu avais ouvert ta Bible avant? Ou tu ouvres ta Bible juste quand il y a des ennemis qui cognent à ta porte? Parce que voyez-vous, c'est une habitude, ça. C'est un mode de vie. C'est qu'est-ce qui arrive quand il y a un ennemi qui frappe à ma porte? Si je prends ma Bible, il y a des fortes chances que je prends ma Bible parce que j'ai peur. Et que je prie parce que je panique. OK? Mais moi, j'ai lu quelque part, c'est quoi? La prière de la foi sauvera le malade. Qu'est-ce que si quelqu'un demande quelque chose, qu'il le demande avec? Sans douter dans son cœur. Pas, qu'est-ce qui se passe? OK? Et trop souvent, nos prières se situent là. On s'approche de Dieu quand ça va mal, pour prier, pour paniquer, et si c'est passé, pour se plaindre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais pas ci? Mais quand ça va bien, on dit gloire à Dieu une journée, puis après on laisse notre Bible là, tranquille, pendant une couple de semaines, jusqu'à ce que ça aille mal. Est-ce que Dieu est grand juste quand il y a la mer devant? Ou Dieu est grand tout le temps? Ou Dieu est grand dans les simplicités, dans les banalités de la vie? Dieu est grand, hein? C'est tellement ridicule lorsque je pense à la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu. Je pense à cet exemple-là banal où, quand j'ai commencé au début à fréquenter ma femme et tout ça, au début du mariage, et là, elle m'a dit « qu'est-ce que tu aimerais manger? » Et comme ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, j'aimais ça, elle me vient tout de suite, pouf, je vais manger du pain de viande. J'aimerais manger du pain de viande. Okay? Amen. Oui, amen, c'est bon. C'est bon, hein? Un bon vieux pain de viande. Pour quelqu'un qui aime la viande, du pain de viande, c'est quand même pas pire, OK? Et elle est là, elle dit, j'ai jamais fait ça, un pain de viande, non? Mais évidemment, elle ne me le dit pas. Elle dit, OK, c'est bon. Ah. Et c'est elle qui m'a raconté l'histoire par la suite. Et qu'est-ce qu'elle fait, mais? Elle prie, tout simplement. Oh, mais, Seigneur, écoute, faut que je fasse un pain de viande, non? Et ça va à l'épicerie. Acheter des petites choses. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas à l'épicerie? Un kiosque, tu sais, le kiosque où ce que les gens font goûter les trucs, là. Et quelqu'un qui est là fait goûter, oh, je ne sais pas si c'est, je me rappelle plus si c'était du pain de viande ou de la sauce. Et avec ça, il y avait une recette de pain de viande. Et jusqu'à ce jour, c'est la même recette de pain de viande qu'on mange. Alléluia! Dieu est bon. Mais ça aussi, c'est la grandeur de Dieu. OK? Qui se soucie au point, à ce point-là de mon estomac. Et non, je pense qu'il se souciait plus de ma femme, de sa foi. OK? Ben, j'aime me dire qu'il se souciait de moi aussi. Mais ça, c'était au début. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de dire, hey, dans ces petites choses-là, je suis là aussi. OK? C'est pour ça que je vous dis, sortez pas juste votre Bible lorsqu'il y a une méga montagne. Parce que Dieu est là même quand c'est une petite butte ou une petite colline. Apprenez à le remercier et à le voir quand il n'y a pas d'obstacle. Amen? Apprenez à le remercier, apprenez à lui rendre gloire, à lui rendre grâce quand il y a des petites choses, quand vous vous levez le matin, quand écoute, pour n'importe quoi. Parce qu'il est digne de louange. Parce que sinon, tout ce qui se passe, c'est quoi? C'est un Dieu qui travaille dans la vie des autres, mais pas dans la mienne. Quand on amène Dieu juste dans nos défis et dans nos problèmes, tout ce qu'on voit, c'est soit un Dieu qui est assez fort pour régler nos problèmes, soit un Dieu qui est pas assez fort pour régler nos problèmes. Mais on oublie que, écoute, chaque saison prépare la prochaine. Et si tu es dans une saison de défis, est-ce que tu as préparé cette saison de défis? Parce que voyez-vous, même dans le sport, il y a des compétitions pour te préparer à la grande compétition. Un coureur, il y a des courses qu'il va faire tout simplement pour s'entraîner. Tout simplement pour se situer, savoir où est-ce que je suis. S'il gagne la course, c'est génial, mais le but premier de ces courses-là, c'est pas nécessairement de gagner la course, c'est de savoir où est-ce que je me situe. Et dans nos vies, il y a des choses qui arrivent dans nos vies pour nous aider à savoir où est-ce que tu te situes dans ta foi, dans ton amour, dans ta marche avec Dieu. Parce que ces tests-là sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'aider à corriger ce qui manque pour être prêt à récolter lorsque viendra le temps de récolter. Hein? Et combien de gens veulent récolter sans travailler? Hein? Ouais. On veut récolter, là. Mais semer, ouf! Travailler la terre, moi, oh, défricher, oh! Des rochers, enlever toute la roche, tout. Ah! OK, on a un minuscule petit jardin chez nous, mais très cute. Mais Et on a pu manger des petites tomates, des carottes et tout ça. Mais on ne s'est pas levé un matin et, oups, il y avait des carottes et des tomates, là. Non. Il a fallu que quelqu'un, en l'occurrence moi, prenne une pelle, creuse. Et c'est tellement beau chez nous que, écoute, le sol, il y a de la roche. Il n'y a que de la roche. Donc, alors que je pensais pouvoir recycler, utiliser un petit peu de terre naturelle, non. Donc, il a fallu que j'enlève tout, toute la roche, que j'aille acheter de la nouvelle terre, que je remplisse tout le trou de la belle nouvelle terre pour qu'ensuite, une demoiselle, jolie demoiselle, qui vienne tout simplement semer. Écoute, il y en a un qui défriche, l'autre sème, mais tout le monde mange à la fin. C'est drôle comment on est capable de le voir facilement dans presque tous les autres aspects de la vie. Okay? Si tu ne t'entraînes pas, tu n'as pas de résultat. Si tu ne sèmes pas, tu ne manges pas. Mais on dirait que dans la vie chrétienne, on pense qu'on est supposé d'avoir tout live tout de suite maintenant sans rien faire. Et jusqu'à un certain point, c'est vrai. Dans le sens que Christ a déjà tout pourvu pour nous. Hein? Mais il faut l'activer dans notre vie. Il faut aller le chercher dans notre vie. Hein? Il faut apprendre à, comme la Bible dit, on est ouvrier avec Dieu. Apprendre à coopérer avec lui. Okay? Si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Demandez ce que vous voudrez. Demeurer, c'est demeurer. C'est pas aller chercher votre Bible en courant, en paniquant quand ça va pas. Non, c'est demeurer. Si je demeure, oh, elle est pas si loin que ça. La parole est où? Oh, la parole est dans mon cœur. Parce que si tu es au travail et que tu as besoin de quelque chose et que ta Bible est à la maison, qu'est-ce que tu fais? OK? Si tu penses qu'il faut absolument que tu pries pendant des heures, que tu lis pendant des heures, non. Si je demeure en Christ, en lui, il y a des grandes chances que la méditation que j'aurais eue la semaine d'avant, les versets que le Seigneur, le Saint-Esprit va m'avoir emmené la semaine d'avant ou les semaines avant, va m'aider à traverser cette épreuve-là. Que là, tu vas arriver et tu vas dire, « Ah oui, Seigneur, OK, c'est pour ça que tu avais mis cette parole-là dans mon cœur. » Des gens savent de quoi je parle? Je suis le seul qui a déjà expérimenté ça? Si vous ne l'avez jamais expérimenté, ce serait le temps de l'essayer. Non, mais je dis ça dans le sens de... Okay? Sincèrement, là. De vous connecter à lui. Et de. OK, ça c'est pour toi, ça. Ce serait le temps de l'essayer pour vrai. Hein? Et je dis pas ça d'une manière où je te pointe du doigt, parce que tu n'es pas le seul ici ce matin. Okay? Mais quand j'avais cette parole-là dans mon cœur, c'est toi qui es venu à mon esprit. Donne-lui une chance. Donne-lui une vraie chance. OK? Et la beauté dans tout ça, c'est que Dieu, il nous attend. Il se dit, écoute, seulement fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Il faut que tu tournes la page. OK? Il faut que tu tournes la page de ce qui est arrivé dans ta vie, mais il faut que tu tournes la page de toi aussi, dans le sens de la culpabilité, il n'y a plus de place pour ça. Parce que s'il y a une personne qui se culpabilise, ce n'est pas Dieu. Okay? Ce n'est pas Dieu qui met ses pensées là. Lui, au contraire, il dit « viens ». Il dit, viens et regarde ce qu'on va faire ensemble. OK? Mais c'est un appel qu'il fait à chacun d'entre nous. Il dit, viens, suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Vous voyez les hommes qui ont tout abandonné sur cette seule parole. Alors que certains ont dit, laisse-moi d'abord prendre congé des gens de ma famille, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père, laisse-moi... Non, on dit qu'ils étaient là dans leur barque en train de travailler avec leur père et ils ont laissé leur filet et ils l'ont suivi. Est-ce que vous êtes prêts à le suivre? Parce que c'est génial d'être chrétien. Mais d'être un disciple... Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est merveilleux. Mais être un disciple, si vous lisez l'histoire des disciples, ils ont fait face à plusieurs situations inconfortables. Hein? Quand on te demande d'aller servir de l'eau sale aux gens, hein, quand Dieu a changé l'eau en vin, là, c'était pas de l'eau filtrée, là, hein. Que la Bible nous dit que c'était des vases remplis d'eau qui servaient à la purification, c'est-à-dire à essuyer les mains et tout ça, là. Et Jésus a dit à ses disciples, prenez ces vases-là, allez servir. Et je m'imagine très bien, ils se regardent, ils font... Qu'est-ce qu'on a fait là? Dire que j'avais une bonne business de pêche avec mon père, j'ai tout lâché pour suivre ce fou-là. Mais ils l'ont fait. Quand il y a des milliers de personnes qui sont assises devant toi et que c'est toi qui as la nourriture, puis tu dis, écoute, il serait peut-être le temps que tu les renvoies à la maison là. Ben, est-ce qu'on a seulement 5 pains, 2 poissons? Il y a à peine 2 miettes par personne, non? Et que Jésus dit non, non, non. Donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si dans cette foule-là, il y a quelqu'un que tu connais? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ça. Et là, quand tu es pu se poser d'en avoir, OK? Mais il faut commencer par donner le premier. Il faut commencer par donner le premier. Si vous voulez voir la grandeur de Dieu dans votre vie, il faut être prêt à être inconfortable. Okay? Pourquoi? Parce que c'est dans notre faiblesse que la grandeur de Dieu se manifeste à son maximum. Donc, quand tu es faible et impuissant, alléluia, lève les yeux. Ta délivrance arrive. Okay? Parce que Dieu manifeste l'ampleur de sa grandeur quand de notre côté, on ne peut plus rien faire. Mais la beauté de ça, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit les circonstances qui vous mettent... Hein? Dos au mur, puis qui vous mettent dans une situation où vous ne pouvez plus rien faire. Non, 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 non. Vous pouvez prendre vous-même la décision initiale de vous soumettre à Dieu. De dire, non, j'attendrai pas que ce soit les circonstances et les nouvelles qui m'accolent au mur, parce que quand ça arrive, c'est quoi? Souvent, c'est la panique. Non, 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 je... prends la décision moi-même de me dépouiller de mes capacités naturelles Et je décide de m'en remettre à la gloire, à la grandeur, à la fidélité de Dieu. Et c'est là qu'on va voir des wow, des belles vies changées, transformées. On vit nos vies, on pense des fois, que les disciples, les apôtres n'ont jamais eu de problème, que tout était beau. Non, non, et non, et non. En fait, ils l'ont eu pas mal plus dur que nous, là. Mais combien ils ont vu la grandeur de Dieu se manifester. Okay, je vais appeler l'équipe de louange. On est dans une saison où c'est le temps de voir la grandeur de Dieu. Mais avant toute chose, on est dans une saison où c'est le temps d'y croire à la grandeur de Dieu. Où c'est le temps d'y croire au point où on regarde, hein, qu'est-ce que le psaume 23 nous dit, c'est quoi? Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que vous êtes là, prêt à vous asseoir à la table, alors que vous regardez le Seigneur disposer lui-même de vos adversaires? Disposer lui-même des situations, des circonstances? Et comment est-ce que vous l'aidez? Vous l'aidez en gardant la foi. Et vous l'aidez surtout en arrêtant de vous inquiéter. OK? Parce que l'inquiétude, là, qu'est-ce que ça fait? C'est pas si compliqué que ça. L'inquiétude, ce que ça fait, tout simplement, ça fait en sorte que vos yeux ne sont pas fixés sur lui. OK? Mais lorsque les Israélites étaient dans le désert et qu'il y avait des serpents brûlants, la Bible nous dit, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? De justement prendre un de ces serpents, prendre un de ces problèmes, prendre une de ces montagnes, l'élever et de dire au peuple que tous ceux qui vont garder les yeux fixés, même s'ils se font mordre, ne seront pas malades, ne seront pas blessés, ne mourront pas. Mais lorsqu'on s'inquiète, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de fixer nos yeux en haut, on fixe nos yeux en bas. Et si tu fixes tes yeux en bas, tout ce que tu peux voir, c'est les serpents. Et si tu vois des serpents, tu vas avoir envie de les enlever, de courir, de te sauver. Puis tu vas dire pendant tout ce temps-là, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu les enlèves pas, les serpents? » Mais lui, il dit, « Regarde en haut. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, je lis ma Bible. Pourtant, je vais à l'église. Pourtant, j'ai proclamé la parole. Fais quelque chose. » Là, il dit, calme-toi. Regarde en haut. Donc là, il faut que tu fasses ça. OK? Et c'est là où on pense que faire ça, c'est rien faire. Oh, mes amis, c'est difficile des fois. Pourquoi? Parce que quand même que tu es comme ça, la dernière image que tu as, c'est plein de serpents qui viennent vers toi. On n'a jamais dit que c'était facile. Est-ce que le Seigneur a dit, lève tes yeux, ça va être facile? Non, il a dit, lève tes yeux, c'est tout. Est-ce qu'on est rendu au point? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu là dans nos vies où on est capable de juste lever nos yeux? Ouh! Et de lui faire confiance. Et de croire que peu importe les serpents, les circonstances, les situations qui se passent ici en bas, ça ne change rien de ce que lui a dit ici. Combien Dieu est grand? Dieu, écoute, Dieu est grand à cause de ça, justement. Dieu est grand à cause que quand nous on peut rien, lui il peut tout. Dieu est grand justement parce qu'il fait l'impossible. Mais tant et aussi longtemps que vous allez essayer de rendre possible l'impossible de vos propres forces, tant et aussi longtemps que vous allez essayer de contrôler les choses, la grandeur de Dieu ne se manifestera pas dans votre vie parce que vous êtes ouvrier avec Dieu. Et si vous argumentez à faire la part de Dieu, Dieu va vous laisser faire sa part. Mais Dieu dit, je vais travailler avec toi. Toi, lève les yeux. Toi, continue à me louer. Tu n'as pas envie de me louer? Loue encore plus fort. Tu as envie de pleurer? Chante encore plus fort. Tu as envie de crier? Lève les bras en l'air. Il n'y a rien qui va bien. Dis Alléluia, Dieu est avec moi. Ça, c'est ta part. Ouais, mais qu'est-ce que ça, ça va faire? Ah, c'est ça le problème, là. C'est... Qu'est-ce que ça va changer? De lever mes bras en l'air, ça va changer ta situation. De lever mes bras en l'air, c'est pas ça qui va me trouver un job. De lever mes mains en l'air, est-ce que c'est ça qui va me guérir? De lever mes mains en l'air, est-ce que c'est ça qui va ramener mes enfants? De lever mes mains en l'air... Oui. Combien Dieu est grand? Plus que tout, plus que n'importe quoi. Il n'y a aucune exception. Okay? Il y a zéro exception. Dieu est grand dans chaque situation. Okay? Il veut se manifester dans nos vies. Que non. Non, et non, il ne se réjouit pas de nous voir passer à travers tant d'épreuves. Il ne se réjouit pas de nous voir dans le malheur, dans la tristesse. Il ne se réjouit pas de voir nos larmes. Il ne se réjouit pas de voir notre peine. Mais la question maintenant, c'est est-ce que nous sommes prêts à être là autant que lui est là? Dans le sens que, est-ce que nous, on reste dans la situation? Est-ce que nous, on est prêts à être ancrés là? Est-ce que nous, on est prêts à continuer à se battre là autant que lui est prêt à se battre? Est-ce qu'on est prêt à lui laisser entre les mains l'issue de la bataille? Le cheval est équipé pour la bataille, pour le combat. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Équipez-vous, là. Équipons-nous. Habillons-nous. On a les armes spirituelles. On a la prière, on a la foi, on a les frères avec qui s'exhorter. Équipons-nous. Baignons-nous dans la parole de Dieu. Préparons la bataille, préparons le combat. Quand tout va bien, c'est l'été et tout est beau, c'est pas le temps d'aller jouer. C'est le temps de vous équiper. Hein, qu'est-ce qu'on voit? La cigale, la fourmi, hey! Pendant qu'il y en a une qui travaillait, qu'est-ce qui est arrivé? L'autre jouait. Mais quand les moments durs sont arrivés, on voit ce qui s'est passé par la suite. Que Dieu est là, tout le temps, à chaque instant, à chaque moment. Il est toujours aussi grand, il est toujours aussi puissant, il est toujours aussi désireux, il est toujours aussi voulant d'agir dans nos vies. Que votre Amen, Alléluia, ou que votre Dieu, où es-tu, qu'est-ce que tu fais? En fait, ça ne le change pas lui. Que vous soyez un jour prêt à donner votre vie pour lui et l'autre jour être prêt à l'abandonner, ça ne change pas Dieu. Mais ça vous change vous. Ça change votre attitude. Ça change votre aptitude au combat. Parce que ça, quand il y a des serpents à tes pieds, c'est tout un combat. Okay? Et la question vient, mais combien de temps est-ce qu'on peut garder nos mains comme ça? Il arrive un moment où est-ce qu'on est tous fatigués. Il arrive un moment où est-ce que on est épuisé. Où on se dit justement, c'est je le sais, je le veux, je le crois, mais je suis plus capable. Et c'est justement comme à ce moment-là que comme Aaron, comme Hur et avec Moïse, où est-ce que l'Éternel tient tes mains, tient tes bras, et les garde en l'air et dit, on, pas tu, non, non, il dit nous, on continue. On continue. Alléluia, alléluia. On va se devoir chanter ce matin encore, combien Dieu est grand. Amen. Alléluia, alléluia. C'est que ce chant soit une déclaration dans votre vie. Amen.
Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien
regardez-moi bien là ce matin. Combien Dieu est grand? Comment est-ce que Dieu veut démontrer sa grandeur? Il veut le faire non seulement en chacun de nous, mais avec chacun de nous. À travers chacun de nous. Et c'est alors que chacun de nous allons prendre ces petits pas de foi, des petits pas de foi. Amen. N'essayez pas de manger toute la montagne d'un coup, là, de la première fois. Allez-y. Dieu nous guide là-dedans. Il y a des temps de préparation. Là. Ne négligez pas les petits moments, les petits temps où ce que Dieu vous prépare, où ce que Dieu vous amène, où le désert a changé votre optique, changé votre mentalité avec le désert. Dites au contraire, merci Seigneur, amen, c'est un endroit où tu me formes, c'est un endroit où je vais ressortir rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est un endroit où je vais voir ta grandeur là où je pensais les choses impossibles, c'est un endroit où tu vas me nourrir surnaturellement, où tu vas me vêtir surnaturellement, où tu vas m'abreuver surnaturellement, c'est un endroit où j'apprends de plus en plus à me délaisser de ma force naturelle et j'apprends de plus en plus à m'appuyer sur toi, Seigneur Jésus, amen. Parce que c'est ce qui va arriver. Parce que lorsqu'ils sont sortis du désert, qu'est-ce qui est arrivé? La manne. Dès qu'ils ont mis le pied dans la terre promise, la manne, fini la manne. Fini. Ils ont dû quoi maintenant? Ils ont dû maintenant labourer, cultiver, semer, travailler de leurs propres mains, amen, pour manger. Mais malgré tout ça, le Seigneur ne voulait pas qu'ils oublient que c'était lui qui pourvoyait. Et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi la dîme, les offrandes et tout ça a été instauré. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils oublient que même s'il ne le nourrit plus surnaturellement, ce qu'ils ont là, ce qu'ils cultivent là, c'est lui qui leur a donné. OK? C'est beaucoup plus que quelque chose qu'on met dans une enveloppe à tous les dimanches, là. C'est une expression de notre reconnaissance, de notre cœur. OK? Oh, hallelujah. Amen. Et si vous êtes là ce matin, que vous n'avez jamais accepté le Seigneur dans votre vie, c'est-à-dire, écoute, confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a pris vos péchés sur lui, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, maintenant assis à la droite de Dieu. Mais que par la foi en lui, vous avez, la Bible nous dit, une vie nouvelle. Cette vie que le Seigneur a préparée d'avance pour vous, cette vie remplie de bonheur, cette vie de promesses, même, mais une vie aussi de foi, une vie de dépendance à lui. Alors, si vous êtes ici ce matin pour la première fois, vous voulez dire oui, Seigneur, j'accepte ton don gratuit, parce que c'est un don gratuit. Je vais simplement compter jusqu'à trois. Si vous êtes ici ce matin et que vous voulez dire oui pour la première fois, je vais vous inviter à lever la main. Ça va me faire plaisir. On va prier ensemble, amen. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Un, deux, trois. Juste levez la main. Levez la main en signe de dire oui, Seigneur, je te donne ma vie. Amen. Et sinon, mais je pense que chacun d'entre nous, là, encore une fois, chacun d'entre nous et je m'inclus là-dedans avec vous tous. Nous avons besoin d'apprendre à faire confiance à notre Dieu. Nous avons besoin, jour après jour, action après action, décision après décision, d'apprendre davantage à s'appuyer sur lui et non sur nos propres forces, de s'appuyer sur lui et non sur nos propres pensées. Nous avons besoin d'apprendre, de connaître et de faire connaître à quel point notre Dieu est grand. Waouh! Alléluia. Amen, amen. On va terminer, mais je sens que... Oui. C'est ça, là.
Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à Moïse en ce qui concerne Pharaon? À chaque fois, il dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi. Est-ce qu'on aurait pu dire, je vais cliquer des doigts et les plaies d'Égypte vont disparaître? À chaque fois, il a dit, lève-toi de bon matin et présente-toi. Il a fait la même chose avec Josué. Lève-toi, présente-toi. Avec Gédéon, va avec la force. Présente-toi, là, avec la force que tu as, mais présente-toi. C'est ce que Pasteur Mafou dit, de travailler avec lui. Ce matin, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il faut qu'on se présente à chaque matin. Plutôt que de fuir nos problèmes, ou de prendre une direction autre, le Seigneur nous demande ce matin, lève-toi de bon matin et présente-toi et tu verras ce que je peux accomplir.
Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Amen. Amen. Donc, quelle belle parole pour terminer. Amen. Prenons l'engagement de nous présenter. Prenons pas l'engagement d'aller prier, jeûner, faire toutes les choses avant de nous présenter. Non. Présentons-nous devant lui comme nous sommes. Amen. Et travaillons avec lui. Alléluia. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Rendez gloire à Dieu dans votre vie. Alléluia. Présentons-nous. Présentons-nous. Amen. Alléluia. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand. Oh, alléluia.
Chantons-le. Lui est soumis, commencement et fin, céleste trinitaire. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien.
Ceux qui veulent y aller, allez-y, je vous relâche. Mais je ressens dans mon cœur quand même que je pense qu'il y a des gens ce matin qui ont besoin de recevoir quelque chose. J'ai juste dans mon cœur que ce n'est pas terminé. Amen. Il faut juste que j'y aille avec ce que je ressens. Donc, 100% libre, OK? 100% aucune culpabilité ou quoi que ce soit. Si vous avez des engagements, si vous avez besoin d'y aller, allez-y. Si vous avez à cœur de juste rester, adorer, louer, rester. Si vous avez dans votre cœur justement d'avancer avec Pasteur Ginette, moi, on va prier avec ceux qui veulent prier. Si vous avez à cœur de partir, je vous demande juste d'être respectueux pour ce qui va se passer ici, peut-être d'aller en bas au café ou quoi que ce soit là. Donc, merci beaucoup. Si vous avez à quitter aussi, n'oubliez pas les groupes d'impact d'aller vous inscrire là-bas. Merci. Amen.